des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
Pierre Fitzgibbon démissionne de son poste de ministre. C'est cette semaine, mercredi. Il a été éclaboussé par un nouveau rapport embarrassant de la commissaire à l'éthique. On le sait, ça fait plusieurs fois que ça revient dans l'actualité. Il fait des affaires, ça touche le gouvernement. À quelques reprises, il a résisté. On l'a pas vu démissionner. Par contre, là, c'est fait, il a démissionné. Est-ce qu'on est mal organisé avec les ministres qui sont en affaires? Qu'est-ce qui arrive avec cette démission-là? Pourquoi maintenant? On en parle avec Maître Jean-Paul Boily qui est là. Bonjour.
Ouais, ben c'est plate un peu cette histoire-là parce que il faut comprendre une chose. Lorsque les gens viennent en politique, il y a des règles qui sont là, qui sont établies. Les règles sont connues par tous avant qu'on se présente. Bon, M. Fitzgibbon vient du milieu des affaires. C'est pas la première fois. On l'a vu à Ottawa, on en a parlé à l'émission abondamment. Là. Des gens qui ont été obligés de démissionner aussi, l'ancien ministre des Finances à Ottawa, parce que il y avait des règles sur les conflits d'intérêts. Ils doivent mettre leurs avoirs, les avoirs actifs qu'on appelle, là, c'est-à-dire que les avoirs qui peuvent être rentables, qui peuvent pas de façon passive, là, si vous avez, je sais pas moi, un véhicule usagé dans votre garage, vous n'avez pas besoin de mettre ça en fiducie, là, mais quelque chose qui peut rapporter. Donc, le ministre, lui, c'est quelqu'un qui vient du milieu des affaires. Il y a plusieurs portefeuilles, je parle pas de ministère, mais portefeuilles d'actions ou d'actifs qui sont pas passifs, qui sont actifs. Donc, il y a des règles à suivre. Et là où M. Legault, je pense que je rejoins un peu sa pensée, il disait faudrait les changer, ces règles-là. Si on va voir des gens qui sont, on va voir tout à l'heure la réaction du milieu des affaires, qui est pas très, très positif. Hein. On est en pleine relance économique. Là, on sort d'une pandémie ou à peine, même pas encore. On a besoin de gens pour faire la relance économique. Puis là, à cause des rapports, le commissaire se fait quatre fois là, qu'il fait des plaintes, pas des plaintes, mais il fait des reproches au ministre. Alors, le ministre, lui, à un moment donné, la force de se faire dire tatatat, taper ses doigts, là, il est tanné. Puis là.
Ben là, parce qu'il n'est pas arrivé de quoi de gros, non. Comme on a eu la preuve qu'il s'est servi personnellement des intérêts. Mais c'est un problème parce qu'en politique, on n'aura jamais de gens d'affaires qui ont de l'allure. Parce que là, je me rappelle la dernière fois, c'était un fonds que lui avait lancé, mais qui était fermé, qui avait encore des intérêts. Exact. Mais on ne devrait pas changer ces lois. Je comprends qu'il y a eu la commission Charbonneau, mais on a peur de notre honte. Mais est-ce qu'on devrait mettre des nouvelles règles pour que nos gens d'affaires soient en politique et qu'ils gèrent bien l'économie? Là?
C'est ce que M. Legault semblait dire. Or, les partis d'opposition, évidemment, ils ont fait les choux gras avec ça en disant, regarde, nul n'est censé ignorer la loi. On est des avocats, on le sait. On doit respecter la loi. Là où il y a un problème, c'est que on veut attirer des gens d'affaires. Puis là, M. Fitzgibbon disait cette semaine, ce que vous me demandez de faire là, c'est pas compliqué, je vais perdre 1 million. Je sais pas. Même si le gars vaut, je sais pas, 50 millions, c'est pas la question. C'est pas de perdre 1 piastre, 10 piastres ou 1 million. La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut pas faire des règles qui vont être un peu plus assouplies parce qu'on vit dans un monde d'apparence. Vous le savez, Maître Bernier, c'est toujours comme ça en droit, en justice et en matière, par exemple, de règles à l'Assemblée nationale. Encore plus, les députés, ils doivent avoir une apparence de transparence absolue. Bon, ça, c'est une chose. Est-ce que, parce que là, le milieu des affaires, j'ai vu la déclaration du président de la Chambre de commerce à Montréal cette semaine, il dit, écoutez, là, on avait l'impression qu'on avait exactement l'homme de la situation au point de vue économique, puis là, on dit, pour des raisons politiques, c'est pas juste politique, là, c'est des raisons de règles de droit. Il dit, on remet pas en cause son intégrité, mais on va nous priver de ses compétences-là. Alors, là, c'est de dire, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que ça soit absolu, l'apparence qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, même si monsieur détient des actions dans des sociétés qui peuvent faire affaire avec la couronne? Parce que c'est le cas. Il y a deux sociétés, entre autres, et c'est pour ça que le commissaire à l'éthique a dit, écoutez, monsieur, vous avez le choix.
Mais il détient des actions votantes dans le sens qu'il y a un pouvoir décisionnel.
Ben, c'est-à-dire que oui, mais il peut être minoritaire. Et puis, vous savez, dans une entreprise, comment ça fonctionne? Un actionnaire va à l'assemblée annuelle, il entérine annuellement le vote, les décisions des administrateurs pendant l'année. Souvent, ça se fait de façon à peu près automatique. Bon, si t'es pas administrateur d'une entreprise, t'es seulement actionnaire, ben, t'es-tu actionnaire de contrôle? On a eu un cas, un moment donné, ici à l'Assemblée nationale, où c'est notre grand patron, ici à Québécois, qui était chef de parti, puis évidemment, les partis d'opposition disaient, ben écoute, il est quand même l'actionnaire de contrôle de certains médias. Ça serait peut-être pas bête que, pendant que la période où il est chef de parti, ben, il n'y a pas cette apparence de conflit. Parce que, à ce moment-là, M. Bédado, pas de nommé, il était propriétaire majoritaire dans des entreprises médiatiques. Bon, ça, c'est une chose. M. Bédado, à ce moment-là, a fait ce qu'il avait à faire.
Mais en plus, lui, ce que je comprends, c'est que tout était connu dans le temps et on voulait aller plus loin de dire, on va être sûr qu'il n'y a pas de contrôle.
Exact.
Mais avec Pierre Fitzgibbon, est-ce qu'on a fait des erreurs au départ? Parce que est-ce que s'il avait tout dévoilé ses actifs, il l'a fait.
Oui, tout à fait.
Donc, il n'y avait pas de solution.
Ben, la solution, c'était de vendre ses parts ou de faire comme d'autres ont déjà fait, mettre ça dans une fiducie sans droit de regard. À ce moment-là, ben, tu ne contrôles rien. Ça devient des actifs, entre guillemets, passifs.
Qui va vouloir aller en politique?
Ben, c'est lié là, le problème.
Je veux dire, c'est quelque chose de gros à demander.
On demande à quelqu'un de dire, regarde, t'as travaillé toute ta vie, t'as ramassé un pécule, parce que c'est son cas, on est bien content pour lui, mais on aimerait avoir votre expertise, votre expérience, vos contacts économiques. Puis c'est important, c'est le ministre de l'Économie. Lui, là, il connaît bien du monde. Bon, il a nommé le directeur de la Caisse de dépôt, c'est un de ses amis. C'est normal. En politique, tu nommes-tu quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu connais pas? Tu nommes quelqu'un à qui tu as confiance, tu nommes... Ça a toujours été ça, c'est tout le temps le cas. Donc, ce monsieur-là, et c'est pour ça que les gens des chambres de commerce, entre autres, et les entreprises, ils sont pas d'accord avec ça. Ils disent, voyons, il faut trouver une solution, il faut trouver une solution qui va faire en sorte que ces gens de valeur au niveau économique, on va être capable, on n'aura pas juste, je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais on n'aura pas juste des avocats puis des journalistes à l'Assemblée nationale, on va avoir des gens qui connaissent l'économie, on va avoir des gens en santé, on va avoir des gens, des fois, en ingénierie. Avant, vous saviez, à l'Assemblée nationale, il y a 50 ans, à part des avocats puis quelques journalistes...
C'était des politiciens,
c'était des politiciens de carrière. Puis il n'y avait pas d'économistes, il n'y avait pas de gens. Les premiers qui ont été là, on a eu Jacques Parizeau à l'époque, Bernard Landry et autres, mais il n'y en avait pas beaucoup. C'était tous des politiciens de carrière ou c'était des avocats ou des gens qui venaient des milieux des médias. Il n'y en avait pas d'autres.
Alors, on comprend ça, mais Maître Beaulieu, on veut la vérité, les vraies choses.
Parlons-nous des vraies affaires.
On va aller dans les coulisses. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, bon, il a tenu le vent dans la face, comme on dit. Il a tenu la route. Il restait au gouvernement, malgré d'autres réprimandes qui... pour moi, ne sont pas le scandale.
Non, pas du tout, pas du tout. C'est l'apparence.
Et là, qu'est-ce qui arrive? Là? Il démissionne.
Ouais, il reste député.
C'est le premier ministre qui c'est trop lourd à gérer? C'est quoi qui s'est passé en réalité?
Ben, exactement.
Il a pas démissionné, ce gars-là.
Ben, en fait, oui. Il a donné sa démission au premier ministre.
Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé en coulisses?
Le premier ministre, son chef de cabinet, il disait, écoutez, là, on peut plus défendre l'indéfendable. Là, les médias étaient tous sur le dos de Fitzgibbon. Puis ça devient politiquement
non rentable.
Ben c'est ça. On sait que là, il y a des pressions énormes. Et là, il faut comprendre une chose. Il a démissionné de son poste de ministre. Il n'a pas démissionné de son poste de député. Parce que comme député, il peut détenir certains...
Donc le parti ne le voulait plus.
Non, je pense pas. Au contraire, moi, je pense qu'on veut le garder, puis je suis pas sûr qu'il se représentera pas à la prochaine élection. Pourquoi? Parce que là, il va peut-être demander à ce que les règles soient changées. Ça veut pas dire qu'il va l'obtenir. Hein. Ça prend l'assentiment des trois quarts de l'Assemblée nationale. C'est pas sûr que ça va passer. Mais si ça passe, puis il se représente, là, il va pouvoir dire, hey, attendez un peu. Là. Moi, là, j'ai tout suivi les règles, on a changé les règles, puis là, dorénavant, je me représente comme député, puis je veux redevenir ministre. Il pourrait le faire, très bien. Et puis ça, à ce moment-là, ça, on appelle ça la bénédiction de la population. Hein? Se faire réélire en disant, vous me connaissez, vous savez qui je suis maintenant. Au départ, il savait peut-être pas. Il disait, oh, Pierre Fitzgibbon, oui, c'est quelqu'un de bon, puis il avait été présenté comme étant un homme d'affaires qui avait réussi, etc. Mais les gens le connaissaient pas nécessairement vraiment. Les gens d'affaires le connaissaient, mais la population qui vote, en général, ne le connaissait pas. Maintenant, il n'y a plus personne qui va pouvoir dire qu'il connaissait pas Pierre Fitzgibbon. Alors, si ce monsieur-là qui veut continuer à servir, écoutez, je veux pas charrier, là, mais gagner 155 000 $ ou à peu près par année avec un petit bonus de 15-20 000 pour tes dépenses, alors que tu peux en gagner 2-3 millions dans une entreprise à pas te faire, excusez-moi, toute la journée, je veux dire, il faut avoir une ferveur, il faut vouloir servir.
C'est quand même dommage, là, il doit se retirer pour peut-être revenir. C'est qui va le succéder, là?
Ah, ben là, c'est Éric Girard, présentement, qui prend le contrôle de ça, qui était déjà aux finances. Alors, mais d'ailleurs, il a déclaré cette semaine qu'il prenait pas ça, juste c'était pas une job d'été, là, c'était une job à temps plein. Bon, tant mieux, il prend comme ça, mais je pense qu'un ministère comme ça, de l'économie, ça va prendre un nouveau ministre. Probablement que M. Legault va être à préparer. Vous savez, après quelques années qu'il gouverne, puis il y a eu la COVID et tout ça, offusquant de penser qu'il va peut-être avoir un petit remaniement de cabinet à un moment donné. Puis ce ministère-là de l'économie, qui est quand même un ministère assez important, surtout, on l'a dit tantôt, là, ouais, en matière de relance, ben il va nommer un nouveau ministre. Mais en attendant, c'est M. Girard qui va faire la job, puis il est là pour ça.
Oui, mais la menace de la COVID semble être passé.
Ouais, ben,
la menace de la récession, c'est dangereux, là. On a vécu des temps difficiles. Ça sera quoi les répercussions?
C'est sûr que ça
on
peut.
On ne sait pas.
On sait pas. Puis
espère avoir à la barre de l'économie quelqu'un
solide. Ouais. Qui connaît l'économie, puis qui connaît les affaires, puis qui connaît le milieu. Un autre qui va avoir des actions d'une entreprise, fait qu'avoir encore
donc,
des plaintes au commissaire,
là, on va pas rester là non plus.
Travers, puis encore.
Ça prend un changement dans les règles. Là, on comprend, on veut pas. Oui, on a été chaudé sur la corruption au gouvernement, mais là, faut pas que le balancier est trop loin de l'autre côté.
Non, parce qu'on a besoin
là,
de ça.
Là, la paranoïa, je pense que dans ce cas-là, ça ressemble un peu à ça.
Ouais, mais merci. Changeons les règles.
Ouais, merci Matt Boilly.